Le 15 novembre, un dimanche, ils arrivaient à Nœux-les-Mines. En descendant de la gare, ils entendirent des clameurs et des chants. « C'est la fin de la grève !» leur dit-on. Un immense cortège de mineurs, chantant l'international, débouchait dans la grande rue, refoulant contre les murs deux lignes de femmes et de marmots qui regardaient. Ils ne distinguèrent d'abord que la masse noire de la foule, d'où surgissait de distance en distance le triangle d'un chapeau rouge. En tête, encadré par un groupe de gamins sautant et hurlant, un mineur, le visage noir de charbon, la barrette sur la tête, les yeux inquiets, portait au bout d'un bâton une loque jaune. Les femmes le huaient au passage, lui montraient le poing. « Crève de faim ! Sale jaunisse ! Lèche-cul !» Derrière lui, une fanfare accompagnait l'international, chantée gravement par la foule qui défilait presque au pas, sans geste. Seuls les groupes des ouvrières de la mine, trieuses, lampistes, étaient tumultueux. Le cortège disparut au tournant de la route. On n'entendit plus, avec quelques éclats de cuivre, qu'une rumeur grondante comme une menace lointaine d'orage. Angèle, qui avait souvent assisté à des disputes et à des rixes de paysans, tremblait devant la puissance formidable de la foule. « De quoi as-tu peur ?» lui dit son mari. « Ce sont des ouvriers comme nous. Puisqu'ils reprennent le travail demain, ils peuvent bien s'amuser un peu. » Lorsque la rue fut libre, ils se dirigèrent vers la mine où Édouard était embauché, qui étageait ses charpentes sur une colline, à une demi-heure de la ville. Autour du puits, sur le carreau, sur le terri, des soldats se préparaient joyeusement au départ. L'atelier de bourrellerie s'élevait auprès de la fosse numéro 4. Le contremaître leur donna tous les renseignements nécessaires, descendit avec eux en ville pour leur faire visiter leur petite maison, le numéro 7 du coron des Grandes Pintes. Le surlendemain, Édouard se mit à l'ouvrage. Il travaillait de 6h du matin à 6h du soir, il venait déjeuner à midi à la maison. Angèle regretta bientôt la vie tranquille des petits villages de Thiérache. Habituée à la présence continuelle de son mari, elle se trouva esseulée. Elle aimait entendre le battement assourdi du marteau sur le cuir, le grincement du tranchet, le hennissement impatient des chevaux attachés à l'anneau du seuil, le bavardage des paysans, dont plusieurs étaient de vieilles connaissances. Tout lui paraissait hostile dans cette ville maussade, parfois lugubre, avec ses maisons de briques noircies par la fumée, ses corons grouillants d'enfants sales et de commères en quête d'une tasse de café. Dans les rues, une boue noire. Dans le ciel gris, des fumées et de la poussière de charbon. Parfois, dans le silence épais de l'hiver, arrivait un gueulement de sirène ou le grondement de formidables machines. Le soir, les vitres noires de la rue s'ensanglantaient du reflet des gigantesques torches des fours à coke. Il semblait qu'une menace d'incendie eût sans cesse rôdé par la plaine sinistre. Angèle avait peur. Il lui arriva de pleurer en cachette. Le matin, elle faisait ses courses chez l'épicier, le boucher, décontenancée devant les femmes qui criaillaient en un patois rauque, en buvant la goutte sur le comptoir. Elle partait vite, comptait sa monnaie dans la rue, s'enfermait chez elle le reste de la journée. Elle avait refusé de prendre le café chez ses voisines du coron et passait pour fière, ne voyait personne, ne sortait que pour accompagner son mari jusqu'à la mine, après le repas de midi. Au printemps, c'est elle qui alla toucher la quinzaine chez le patron, établi sur la place de Béthune. Elle arrivait en ville vers 3h, recevait l'argent, se promenait par les rues, regardant les étalages. Longtemps, elle restait sur la petite place, devant le beffroi qu'elle trouvait bizarre, jailli d'un pâté de vieille maison. Un jour, elle monta jusqu'à la chambre des cloches, eut peur quand le carillon sonna et descendit en enviant l'existence de la famille du guetteur. En face, un hôtel, installé dans une vieille demeure à pignons dentelés, lui paraissait luxueux. Quand elle passait sur le trottoir, en jetant un regard de côté, elle voyait sur le fond sombre des boiseries de longues tables recouvertes d'une nappe tombant très bas, chargées de fleurs, de fruits, de cristaux et d'argenterie. Elle n'osait lire le menu affiché à droite de la porte, de peur d'être remarquée. Le soir, en rentrant dans la ville noire et tapageuse, elle se prenait à soupirer. Ses petits voyages à Béthune étaient sa grande joie. Elle faisait longuement sa toilette et partait en souriant de se savoir jolie. Les voisines, réunies un jour chez l'une, le lendemain chez l'autre, pour prendre le café et cancaner, écartaient les rideaux et la regardaient. Elle, qui fainéantait du matin au soir, la traitait de rien du tout et son mari de cocu. Et tout en se versant une deuxième tasse, la rincette, un canard, « Ça passe son temps à se frotter le museau. Ça fait la fière et ça va traîner à Béthune. Elle peut bien mettre des gants et des bottines à haut talon, pour ce que ça lui coûte.